Alors, vous avez entendu que les prêtres et les sœurs ne mentent ni ne pêchent jamais, donc c'est un excellent propos introductif pour cette conférence. Non, plus sérieusement, ce texte, je crois, présente vraiment deux figures assez campées, presque un peu caricaturales, que Victor Hugo met en scène ici. On pourrait dire cette figure de la justice absolue, qui est cet inspecteur Javert, et puis de l'autre côté, cette figure qui peut un peu incarner ou évoquer cette bienveillance que je définissais tout à l'heure, mais sur son caractère finalement un petit peu mou quand même. C'est-à-dire que cette sœur, elle ment, certes pour des bonnes raisons, et j'y reviendrai un peu plus loin dans le propos, elle ment pour des bonnes raisons, mais on voit qu'il n'y a pas vraiment un souci de la justice dans la manière dont Victor Hugo glorifie son mensonge. Il y a ce côté, ben finalement, voilà, elle fait le bien comme elle l'a toujours fait dans sa vie. Et puis d'un autre côté, vous avez quelqu'un qui ne cherche que la justice, ou que une vérité, la sœur n'a pas à mentir. Et on voit que les deux ont l'impression de vivre dans deux univers complètement différents. Et effectivement, c'est la deuxième que Victor Hugo va sélectionner comme étant celle qui a bien agi. Alors, je ne dis pas qu'elle a mal agi, on reviendra là-dessus un petit peu plus loin. Mais même le nom de la sœur, hein, la sœur Simplice, ça nous évoque bien cette bienveillance un petit peu molle. Mais je crois que le problème, il se situe bien là. C'est que souvent, quand on évoque la bienveillance, c'est pour ça aussi que j'avais choisi la référence au psaume 84 sur laquelle je reviendrai, on a tendance à séparer justement l'amour d'un côté, entendu comme un sentiment un petit peu voilà, général et assez sympa. Et puis la vérité, mais dans son sens froid, et qui va opérer une stricte application de principes sans prendre en compte ni les personnes qui sont en face, ni les circonstances. Alors évidemment, on pourrait se dire, c'est vrai, un bon chrétien ne doit pas juger, un bon chrétien doit faire du bien à son prochain. D'ailleurs, c'est écrit dans le serment sur la montagne, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Donc un bon chrétien, il devrait être plutôt du côté de la douce bienveillance et du doux amour que de la vérité. La question que j'aimerais un peu poser dans ce moment qu'on va passer ensemble, c'est sommes-nous condamnés, si on est chrétien, à opérer cette séparation et à choisir de temps en temps la vérité et de temps en temps l'amour, et puis quand même de choisir globalement plutôt l'amour que la vérité? Est-ce qu'on est obligé d'opérer cette espèce de balance? Est-ce qu'on est obligé d'être un peu dans cette mollesse du cœur, d'être un peu des sœurs Simplice en puissance? Alors pour essayer de progresser là-dedans, je procéderai en trois temps, puisque c'est la fête de la Trinité, ça s'impose. D'abord, j'analyserai un peu comment est-ce que on en arrive là. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à opposer, finalement, deux choses qui peut-être n'auraient pas à être opposées, l'amour et la vérité. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à considérer que la bienveillance pourrait être, encore une fois, cette mollesse du cœur? Premier temps. Dans un deuxième temps, j'essaierai d'être un peu plus pratique et de voir comment est-ce qu'on peut pratiquer justement cette bienveillance en prenant en compte cette nécessité de ne pas séparer les deux éléments. Et puis, dans un troisième temps, j'essaierai de voir aussi comment est-ce qu'on peut être aidé en cela, notamment par la grâce. J'y reviendrai. Et ces trois temps, ils chercheront aussi à dégager un peu trois caractéristiques, hein, si vous voulez, de la bienveillance. L'objectif est effectivement de voir ici quelle est la source de cette bienveillance, comment est-ce qu'on peut la comprendre. Alors tout d'abord, la bienveillance au carrefour d'un problème qui me semble plus profond. L'objectif dans ce premier temps pour moi, c'est de comprendre ce qui est à la source de cette séparation que j'évoquais plus haut entre amour et vérité. Comment est-ce qu'on en est arrivé? Comment est-ce qu'on en arrive parfois dans notre vie chrétienne à se dire qu'il faut choisir entre l'un ou l'autre dans certaines circonstances? On pourrait dire bien, 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 bien des choses. Je n'en ai retenu que deux qui concernent plus particulièrement la question de la bienveillance. Je crois qu'un des problèmes, il se situe d'abord dans notre conception qu'on a de qui nous sommes comme homme, comme être humain. Souvent, je crois que nous nous voyons beaucoup comme des anges protestants. J'ai l'impression que souvent notre idéal, et souvent notre idéal de chrétien, c'est pas d'être des saints, c'est d'être des anges. Ce qui est un peu problématique parce que, voilà, de fait, je crois qu'on aura beau essayer, ça, pour le coup, on n'y arrivera jamais. Autant être des saints, on y arrive peut-être notamment grâce à l'aide et au secours de la grâce, et grâce aussi à tout ce qu'on peut essayer de faire pour y arriver, mais des anges, on aura plus de mal. Je m'explique. Si nous sommes des êtres humains, si nous sommes hommes, c'est que nous sommes inscrits dans le temps. Nous ne sommes pas des purs esprits qui comprennent tout de suite, qui comprennent d'un premier coup d'œil ce qui nous arrive. Il nous faut un certain temps pour pouvoir assimiler les choses, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir les faire entrer dans notre vie et dans notre cœur. Et ce temps, il est en même temps très différent d'une personne à l'autre. Il y a des choses que quelqu'un va pouvoir saisir assez rapidement, d'autres choses que voilà, une autre personne va avoir beaucoup, beaucoup plus de mal à intérioriser et à intégrer. Et ça, c'est vrai pour les connaissances, on va dire, intellectuelles, mais c'est vrai également pour la vie morale. Le pape François insiste beaucoup là-dessus, notamment dans sa dernière exhortation apostolique, pas sur la sainteté, mais l'avant-dernière, dans Amoris Laetitia, où il insiste beaucoup sur cette idée selon laquelle, pour certaines personnes, eh bien, poser un acte tout à fait honorable va être fait de façon relativement facile. Pour d'autres, poser un acte un petit peu moins bon sera déjà un progrès beaucoup plus grand, parce que vu la situation, vu la circonstance dans laquelle se trouve telle ou telle personne, eh bien, il y a un pas qui semble tout petit de l'extérieur, mais qui en réalité est un pas de géant pour cette personne. Donc nous sommes très différents dans notre capacité à avancer et dans notre capacité à progresser. Et si on est trop dans cette lecture de l'immédiateté, c'est-à-dire de ce sentiment qu'il faut tout comprendre et tout comprendre tout de suite, eh bien, je crois qu'on est effectivement condamné à ne pas être dans un sentiment de bienveillance, parce qu'on se contente de regarder la vie, notre vie et celle des autres, comme une succession d'instantanés. Vous voyez, comme une succession de photographies à ce moment de la vie. Ah ben là, il était plein d'amour. À ce moment-là, il était plein de justice. À ce moment-là, il était plein de compassion. Et on a donc une série de photos comme ça qui seraient prises, alors que notre vie, c'est plutôt, si je file la métaphore, non pas une succession de photos instantanées, mais plutôt une succession de films. C'est plutôt un film qui se déroule et où un événement du présent prend sens par rapport notamment au passé et par rapport à tout ce qui a été mon histoire personnelle. Donc on ne peut jamais isoler un acte de son contrat pour nous, mais encore une fois, c'est vrai pour les autres. Et puis, une deuxième caractéristique, l'homme n'est pas seulement inscrit dans le temps, il est aussi inscrit dans ce qu'on pourrait appeler la contingence. C'est un élément qui est directement lié au précédent. Vous savez, les anges ont cette chance non seulement de tout comprendre tout de suite, mais d'être en plus des purs esprits. Donc il n'y a aucune contrainte matérielle qui porte sur eux. Donc tant mieux pour eux, on pourrait dire, mais nous ne sommes pas dans cette situation. Si je fais une petite parenthèse philosophique, les non-philosophes me pardonneront, mais Aristote déjà avait beaucoup souligné ça. Il disait que notre vie, elle est dans ce qu'il appelait le monde sublunaire, c'est-à-dire le monde qui n'est pas comme le mouvement des astres qu'il associe à celui des anges, mais nous sommes dans un monde où eh bien, il y a toute une série de choses qui ne sont pas très propres, qui ne sont ni blanches ni noires, mais qui sont plutôt grises, et avec lesquelles il faut jouer, avec lesquelles il faut s'accommoder. Et souvent, on est bien obligé, non pas de choisir la meilleure chose, mais de choisir la moins pire, ou le moindre mal. Et c'est un petit peu ça, moi, que je reprocherais à Victor Hugo dans l'extrait, au-delà de la qualité littéraire du propos, hein, mais dans la fin de l'extrait qu'on a lu tout à l'heure, c'est qu'il dit que la sœur Simplice a posé un acte tout à fait parfait ou tout à fait beau. Moi, je ne dirais pas la même chose. Je crois qu'elle a commis un acte qui n'est pas bon, parce que c'est jamais bon de mentir. Sauf qu'elle ne pouvait pas faire autrement dans la circonstance dans laquelle elle était. Et là, la perspective est assez différente. C'est pas de dire, voilà, parce que j'étais obligé, vu que je devais cacher quelqu'un qui légitimement était pourchassé par un policier, que je désirais le cacher pour éviter qu'il ait plus de problèmes, je suis obligé à mentir et mon mensonge est bon. Non, mon mensonge reste mauvais, mais la circonstance dans laquelle je me trouve fait que je ne pouvais pas faire autrement. Et donc c'est un moindre mal. Vous voyez un peu la différence entre les deux circonstances. Et prendre en compte cette contingence, c'est-à-dire prendre en compte le fait que, ben voilà, on vit dans un monde où il y a des personnes qui ne sont pas toujours remplies d'amour
dans leur perspective de vie. Parfois, nous vivons dans des systèmes, et j'y reviendrai, ou des structures sociales qui peuvent être injustes. Il faut qu'on jongle avec tout ça, et puis parfois, on est obligé de choisir non pas ce qui est blanc ou ce qui est noir, mais ce qui est gris. J'avais été très frappé par ce que nous avait dit un jour une sœur moniale, mais pas du monastère de Chalais, donc je peux la citer sans crainte, qui nous avait dit, quand j'étais en formation dominicaine, « J'ai compris ce qu'était l'obéissance religieuse quand je suis devenu supérieur. » Alors ça semble un peu surprenant, parce qu'on se dit au contraire, la supérieure, c'est à elle que les autres sœurs doivent obéir. « Parce que je me suis rendu compte qu'obéir, ça n'est pas obéir aux volontés d'une personne qui a éventuellement ses lubies ou ses manières de voir les choses, mais c'est d'abord obéir à la réalité de ce que sont mes sœurs et à la réalité de ce qu'est le monastère dans lequel je vis. » Et je crois que là, il y a quelque chose aussi de très juste. Nous sommes tous obligés, que nous soyons religieux d'ailleurs ou non, mais d'obéir à cette réalité de nos propres limites, mais aussi des limites de ceux et celles qui nous entourent, de la société qui nous entoure et du monde qui nous entoure. Et cette obéissance, on ne peut pas en faire fi et rêver qu'on vit dans un monde merveilleux. Qu'il y a quelque chose là-dedans qu'on a à prendre en compte.